Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Pour moi, les études d'architecture font partie des meilleurs moments d'un architecte. Mon père, il m'avait demandé, il m'a dit, est-ce que tu voulais de l'argent de poche? J'ai dit oui, j'étais tout content. J'ai dit oui, bien sûr, je veux de l'argent de poche. Il m'a répondu, va travailler ce matin et on verra après. Alors sincèrement, il y a un seul conseil qui me vient à la tête. C'est il faut s'accrocher à nos rêves. Il ne faut jamais laisser tomber, ne jamais baisser les bras. Parce que c'est grâce à nos échecs qu'on en sortira encore plus fort.
Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte.
Mehdi 1, Karima, Job Story.
Mon invité aujourd'hui, c'est Hamza Diouri, il est architecte, la passion, l'ambition, tout est là. Hamza Diouri, bonjour, ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui.
Bonjour Karima, bon, et merci de m'avoir invité.
Tout le plaisir est pour moi. Hamza, alors déjà, on commence par le commencement, en quelque sorte. Quand on parle d'architecture, on parle forcément d'études. Ce n'est pas un parcours des plus simples, déjà. Ramenez-nous un petit peu à vos années d'études. Comment ça s'est passé? Comment se sont déroulées les choses, en gros?
Alors, pour moi, les études d'architecture font partie des meilleurs moments d'un architecte. Parce que c'est là qu'il commence à découvrir un peu ce que c'est réellement l'architecture. D'où elle vient, son histoire, etc. Et il découvre aussi un système scolaire totalement différent de ce qu'il a pu voir auparavant. Ce qui est vraiment important, c'est aussi que c'est l'endroit où il va vraiment rêver sans limite. Mmh. Il n'aura ni réglementation, ni budget, il n'aura rien pour freiner son élan, on va dire. Mmh. Et si on parle aussi humainement, il faut savoir aussi que les études sont très spéciales dans le sens où ils vont commencer à charreter. Charreter, ça veut dire qu'ils vont commencer à passer des heures la nuit à travailler, ouais, parce qu'ils auront un deadline très court. Ils vont vraiment découvrir le vrai travail en groupe. Et c'est ce qui permet aussi de se faire énormément d'amis, et de créer énormément de souvenirs. Alors, si on passe au cursus scolaire, le cursus scolaire, il est de 6 ans, 5 années d'études, et la 6e année, c'est une année préparatoire pour l'obtention du diplôme, le PFE.
Mmh. Et justement, donc c'est de longues études, c'est des études qui durent, c'est beaucoup d'efforts aussi, beaucoup de nuits blanches, etc. Est-ce que cet univers ou l'architecture, de façon plus spécifique, ça a toujours été une évidence ou est-ce que c'était un rêve d'enfant ou est-ce que c'est venu comme ça, par hasard, voilà, au fur et à mesure du temps ou en fonction des notes ou je ne sais pas, de l'orientation? Comment ça s'est passé dans ce sens? Est-ce que ça a toujours été une volonté, l'architecture?
Allez. C'est une question un peu mitigée pour moi, parce que depuis tout petit, j'allais au chantier avec mon père, j'ai baigné un peu dans tout ce qui est bâtiment et architecture. Mmh. Mais mon premier choix après la terminale penchait plutôt vers la médecine, parce que j'adore le contact avec les gens, je suis quelqu'un de très sociable et surtout j'adore aider, j'aime aider les gens. Donc j'allais partir à Dakar, mais c'est ma mère qui m'en a dissuadé. Donc je me suis rabattu, et heureusement, sur mon deuxième choix, quand j'ai passé le concours d'archi à Casablanca. Donc j'étais parmi les 5 premiers le concours et on était à peu près une centaine de personnes à passer le concours.
D'accord.
Donc et c'est là que j'ai eu un peu le déclic, que je me suis dit c'est l'archi que je voulais faire et rien d'autre.
Bah finalement le destin fait bien les choses des fois. Des fois on calcule, on a une vision un petit peu prédéfinie de ce qu'on a envie de faire, mais voilà, ça se passe autrement et c'est hyper important aussi d'avoir cette flexibilité, de se dire j'ai pas fait ça mais c'est pas grave, je peux faire ça aussi.
Tout à fait, tout à fait.
Et voilà, donc une fois votre diplôme en poche, beaucoup d'années d'études encore une fois, etc. L'univers professionnel, comment vous l'avez intégré? Ramenez-nous un petit peu peut-être à vos premières expériences professionnelles.
En fait, personnellement, j'avais commencé à bosser dès ma 3e année d'études, où j'avais rejoint le groupe familial IA Développement. C'est une résidence balnéaire de 32 immeubles. Et le projet, c'est vraiment un petit bijou. Et voilà.
Donc c'était ça vos premiers pas. Finalement, vous avez bien commencé.
Mes premiers pas professionnels. Oui, tout à fait.
Donc vous n'avez pas galéré un petit peu au début? C'est venu facilement ou il y a eu quand même un petit peu de petits obstacles en quelque sorte?
En fait, c'est parti un peu de fil en aiguille. Mmh. J'ai bossé dans pas mal de cabinets, sans citer les noms, pour acquérir encore plus d'expérience. Parce que pour moi, l'architecte ne peut jamais se satisfaire de ce qu'il a acquis. Mmh. Il y a toujours de nouvelles technologies, de nouvelles manières de construire. Et surtout, ça aide lors de nos conceptions. Parce qu'on a des mises à jour tout le temps, chaque jour.
Ouais.
Alors, j'ai aussi une deuxième casquette. Grâce à l'expérience acquise, grâce à mon père et la société familiale, j'ai tous mes corps de métier. Je faisais aussi de la rénovation.
Mmh.
Donc, au début, c'était du bouche à oreille. Je me rappelle la première maison que j'avais rénovée, c'était celle de ma tante. Mmh. Et en partageant un peu les photos sur les réseaux sociaux, j'ai eu des petites demandes au début, des demandes de rénovation de café, de salon de coiffure, jusqu'au jour où j'avais eu un appartement, une villa en même temps à rénover.
Mmh.
Et c'est là que je me suis dit, il faut que je fasse ça aussi. Et puis, on collabore avec des architectes d'intérieur et nous arrivons à rendre heureux les clients. Et c'est ce qui nous rend aussi, nous, très heureux.
Ouais. Est-ce que c'est facile de bosser en famille ?
De bosser en famille, alors c'est, on va dire, il y a deux revers.
Mm.
Premier revers, oui, c'est plutôt facile parce qu'on connaît un peu tous les membres du cabinet, etc.
Mm.
Par contre, c'est pas facile parce qu'on n'a pas forcément les mêmes idées, la même idéologie de tout ce qui est architecture et exécution.
Mm.
Donc chacun essaye de prendre son envol lui-même.
Et le Covid ? Je sais que ça a été un petit peu une phase peut-être un peu... Comme tout le monde d'ailleurs, je pense. Mais comment ça s'est passé pour vous ?
En fait, je me suis lancé dans tout ce qui est rénovation juste avant le Covid en 2019. Après, quand il y a eu le Covid, au début, j'avais un peu peur que tous les chantiers soient à l'arrêt et qu'il n'y ait plus d'autres demandes, on va dire, puisque les gens avaient peur du virus et surtout de voir et de commencer de nouveaux projets. Mais à ma grande surprise, 5 mois ou 6 mois après, quand il y a eu le confinement, les gens commençaient à vouloir changer un peu leur chez eux.
Mmh.
Donc, comme on dit, Tlaléum, Chuya, les murs frasants.
Ouais, parce qu'ils sont restés donc, longtemps.
Là, voilà, ils sont dedans. Restés cloisonnés chez eux.
Ouais.
Donc, c'est là qu'est venue l'idée de plusieurs clients.
Mais voilà, c'est un mal pour un bien, finalement.
Tout à fait.
Et Hamza, sinon, dans un tout autre registre, si vous deviez nous parler un peu de votre mission, elle consiste en quoi ? On sait que voilà, architecte, c'est un métier, c'est un statut, etc. Mais on ne voit pas forcément des fois ce qui se passe... ce qui se passe derrière. On voit juste le statut ou le titre.
Donc, une villa, une résidence, un aménagement, une usine, tout ça. Alors, les architectes s'occupent du projet de A à Z. Mmh. C'est-à-dire que nous passons par toutes les phases d'un projet, que ce soit de l'esquisse à la livraison définitive.
Mmh.
En gros, sans entrer trop dans les détails, un architecte s'occupe de la conception du projet, de l'obtention du permis de construire, mais aussi de tout ce qui est suivi de chantier. Nous devons nous assurer du bon déroulement de toutes les phases.
Ouais.
Et bien sûr, on conseille notre client. L'architecte, il était un peu, c'est pas juste un prestataire, mais c'est aussi un ami. C'est-à-dire que quand on a un client, il faut un certain feeling entre l'architecte et le client.
Mmh.
Parce que quand il y a ce feeling-là, l'architecte, il peut comprendre très facilement les attentes du client. Qu'est-ce qui, par exemple, quand c'est de l'habitat, le client, qu'est-ce qu'il veut exactement avoir chez lui, comment il veut être chez lui, ça veut dire ses habitudes, quelles sont ses habitudes. Et nous, en fonction de tout ça, on peut faire une bonne conception adaptée à chaque client.
Et les difficultés, l'envers du décor ?
Alors, sincèrement, pour moi, il n'y a pas de mission facile.
Mm.
Dans le sens où la marge d'erreur, elle est très petite chez les architectes. Nous devons prendre en considération plein de facteurs pour pouvoir réussir un projet.
Ouais.
Que ce soit la réglementation, la topographie du site, le climat de la région, comment avoir un bâtiment HQE, comment faire gagner, si c'est un promoteur, comment lui faire gagner un maximum d'argent.
Ouais.
Et aussi, comment éviter que les autorisations ne s'éternisent. Parce que des fois, ça prend beaucoup de temps et c'est ce qui lasse un peu les clients. Mais le plus important pour moi, c'est de satisfaire les attentes du client. Et ça, ce n'est pas une mince affaire.
Oui, j'imagine. Et si vous deviez, après ces expériences, partager avec nous peut-être votre plus beau souvenir professionnel, vous pensez à quoi en premier ?
Alors, mon plus beau souvenir pro, sincèrement, il y en a beaucoup. Mais je dirais que le meilleur, c'est celui de ma première villa. Le fait de voir ton propre projet sortir des plans et prendre vie sur le terrain, je crois que c'est l'un des plus beaux souvenirs qu'il puisse y avoir. Surtout quand le résultat est incroyable et que le client il est très satisfait. En fait, c'est un petit bébé qui voit le jour.
Oui, c'est vrai, ça, j'imagine, ça n'a pas de prix.
Du tout.
Et sur une note moins positive cette fois, le pire souvenir professionnel.
Ah là là, le pire souvenir. Alors, Pour ça, j'ai directement le souvenir qui me revient en tête. Lors d'une visite d'un chantier, un ouvrier, il ne respectait pas les normes sécuritaires. Mmh. Il est tombé du troisième étage devant mes yeux. Voilà. Mais heureusement, il est tombé sur du sable, ce qui a atténué un peu sa chute. Donc, 6 mois après, quand il est sorti, il a fait un peu de rééducation. Il a pu retrouver son travail. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai eu un petit déclic. Je suis intransigeant en tout ce qui concerne les normes de sécurité sur un chantier. Parce que la sécurité, et surtout la sécurité des ouvriers, passe avant tout, même avant le projet.
Bien sûr, c'est vrai que c'est hyper important et c'est tout à votre honneur justement de faire attention à cette partie de votre travail en quelque sorte.
Oui, surtout que c'est une réglementation et la réglementation, elle n'est pas souvent suivie par les entreprises de construction. Donc c'est aussi aux architectes de s'assurer qu'elle est là.
Ouais. Et est-ce que d'une façon ou d'une autre, on en parle souvent dans Job Story, de l'impact de l'entourage, voilà, on dit souvent qu'on est le fruit de notre entourage, de notre famille, etc. Dans votre cas, est-ce qu'il y a eu un quelconque impact de la part de vos proches par rapport à votre parcours ?
Alors, vous connaissez l'exemple d'Obélix qui n'a plus besoin de potions parce qu'il est tombé dans la marmite en étant pied.
Ouais.
C'est exactement
c'est votre cas, ouais.
Alors, mon père étant promoteur et ayant eu une entreprise de construction, j'allais avec lui sur les chantiers depuis l'âge de, on va dire, 6 ans, 7 ans. Et maintenant que vous en parlez, il y a un souvenir qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. C'est celui de la paye du samedi. Alors, mon père, il m'avait demandé, il m'a dit, est-ce que tu voulais de l'argent de poche ? Je lui ai dit, oui, j'étais tout content. Je lui ai dit, oui, bien sûr, je veux de l'argent de poche. Il m'a répondu, va travailler ce matin et on verra après. Donc après, il m'a envoyé avec un maçon. Et le maçon, moi, je croyais qu'il allait juste me montrer ce qu'il faisait. Il m'a donné une pelle. Il m'a dit quoi faire avec le ciment, tout ce qui est ciment, eau, sable, etc. Et il m'a appris le dosage d'un bon enduit. D'accord. Donc à la fin de la matinée, je suis allé vers mon père pour lui demander l'argent de poche. Il m'a dit, attends ton tour et prends la fiole avec les autres. Donc j'ai attendu mon tour aussi. Et il m'avait payé le même montant qu'il payait les ouvriers. Et c'est là où tu comprends un peu la valeur de l'argent. Et c'est une satisfaction derrière. Ça veut dire que c'est la première fois où j'avais vraiment bossé de mes mains pour recevoir un salaire, on va dire.
C'est
là où tu connais, c'est là où tu as la valeur de l'argent aussi.
Ouais, c'est vrai que moi je pense que c'est une excellente méthode aussi d'impliquer un peu les enfants lorsqu'on a une entreprise par exemple familiale, peu importe le domaine d'exercice, de les impliquer, mais dans ce sens, pas en tant que petit patron, mais en tant que voilà, ils sont actifs.
Tout à fait, ouais. Tout à fait. Il faut mettre la main à la pâte, comme on dit.
Ouais.
Et quand on sent par exemple, dès le début, le fils du patron, etc., on commence à avoir de gros airs. Et ça, c'est pas bien.
C'est
Il faut
vrai.
Commencer dès le bas de l'échelon et commencer à gravir les échelons et gravir jusqu'à arriver à ce qu'on veut.
Exactement, parce que même les parents, par exemple, dans le cas de votre papa ou d'autres papas d'ailleurs qui ont leur propre entreprise, ils ont travaillé très dur pour en arriver là. Donc ça serait un petit peu malhonnête de venir directement et de choper la place du petit patron. C'est pas,
bien sûr,
voilà,
bien
c'est
sûr.
Pas logique.
Surtout que mes parents, j'ai un très grand respect pour eux dans ce sens-là, c'est qu'ils ont, commencé avec très peu, ils sont arrivés à Abdullah avec pas mal de choses, pas mal d'accomplissements, et ça c'est vraiment, on va pas dire un exploit, mais c'est vraiment quelque chose de très respectable.
Bien sûr, c'est aussi un exploit, parce que c'est vrai que c'est pas... les histoires diffèrent, les profils diffèrent, etc. C'est du cas par cas. Mais voilà, quand on commence petit et qu'on grandit qu'on fait grandir l'entreprise ou le projet qu'on a petit à petit, sans sauter les étapes, franchement, moi je pense que ça peut être un exploit aussi.
C'est toute la satisfaction du monde.
Ouais, c'est ça.
Exactement.
C'est ça. Et dans la continuité, ça serait quoi votre prochain objectif professionnel ou un rêve que vous souhaitez concrétiser ? Voilà, parlez-nous-en si vous en avez, bien évidemment.
Alors, pour mes objectifs professionnels, c'est d'avoir bien entendu plus de projets. Ça, tout le monde le veut.
La base.
Mais surtout de trouver des partenaires avec lesquels on fera du bon boulot et on les aidera dans l'accompagnement de leurs rêves, que ce soit les promoteurs, les particuliers ou encore les organismes étatiques. Vous avez parlé de rêve. Le rêve d'un architecte, je crois, c'est qu'il voudrait changer les choses. Il y a pas mal de choses à changer pour aller encore plus de l'avant. Déjà, notre pays, il est en train d'évoluer d'une manière exponentielle. Ça veut dire on fait un effort et on a une évolution qui est très remarquable et tout le monde en parle. Et on pourrait aussi rajouter notre grain de sel en étant un architecte.
Bien sûr, si tout le monde peut mettre la main à la pâte encore une fois, on ne peut qu'aller de l'avant encore plus, Inch'Allah. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite pour notre pays et c'est tout ce qu'on vous souhaite à vous également, Hamza. Cette fois, avant de mettre fin à notre discussion, si vous deviez partager un conseil avec les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être un petit peu perdues ou paumées sur le plan professionnel, ça serait quoi ?
Alors, sincèrement, il y a un seul conseil qui me vient à la tête, c'est il faut s'accrocher à nos rêves. Il ne faut jamais laisser tomber, ne jamais baisser les bras. Parce que c'est grâce à nos échecs qu'on en sortira encore plus fort. Parce que, comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et c'est exactement ça. C'est grâce aux échecs qu'on apprend et qu'on devient encore plus fort. À chaque fois qu'il y a un échec, ça veut dire qu'on a appris quelque chose et on va se relever. Et la prochaine fois, on ne refera plus la même erreur. C'est pour ça qu'on parle d'expérience de la vie.
C'est vrai. Donc, pas d'échec, que des apprentissages, finalement.
Tout à fait, tout à fait.
Bah, Hamza Diouri, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui, d'avoir partagé votre histoire et votre parcours avec nous. Et puis, je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah.
Merci beaucoup, Karima, et merci encore une fois de nous avoir invités.
Bah, tout le plaisir est pour moi, Hamza. À bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.